J'ai dormi une minute, j'ai dormi 60 secondes de papillon. Et pendant cette minute, j'ai rêvé mille fois. J'ai rêvé que j'étais un papillon, minuscule voilier désert, maltraité par le vent. Mais qui donc a rêvé cette nuit? Est-ce moi qui ai rêvé que j'étais papillon? Ou le papillon qui est en train de me rêver? Est-ce bien vous qui êtes là en train de nous écouter? Ou bien une étincelante nuée de papillons reliés par un battement de cœur? Ou bien encore des milliers de petites chenilles en train de rêver le monde que vous êtes en train d'écouter et de construire?
L'amour, c'est un sentiment.
Qu'est-ce que c'est un sentiment?
C'est quelque chose qu'on éprouve.
C'est quelque chose qu'on ressent.
C'est quelque chose qu'on exprime.
Est-ce qu'il y a d'autres sentiments?
La peur.
La tristesse.
La colère.
La timidité.
La gaieté.
La joie.
L'inquiétude.
La joie, la tristesse, la gaieté, la peur, l'inquiétude. Est-ce que c'est vraiment des sentiments?
Non, c'est des émotions.
Alors, c'est quoi une émotion? Qu'est-ce que ça pourrait être la différence entre une émotion et un sentiment? Je me pose la question en même temps que vous. Hein.
C'est des choses différentes. L'émotion, c'est ce qu'on exprime. C'est pas ce qu'on ressent.
Les sentiments, c'est quelque chose qu'on donne et qu'on reçoit. Et les émotions, c'est ce qu'on ressent.
Bah, les émotions, c'est des états. Comme par exemple la colère, ça dépend de comment t'es. Si t'es en colère, ça se voit. Si t'es triste, ça se voit. Du coup, pour moi, les émotions, c'est des états.
Quelle émotion vous avez là, tout de suite?
La peur.
La joie.
Du stress.
Qui pense que l'amour est plutôt un sentiment qu'une émotion?
C'est pareil du coup, parce que quand t'es amoureux, c'est un sentiment et une émotion, parce que quand tu vois la personne, t'es émotif.
Mais dans la différence que tu pointais, c'est que l'émotion, elle est dedans, elle est intérieure. Alors que le sentiment, tu disais qu'il se donne, hein, c'est ça?
Et qui se reçoit.
Et qui se reçoit.
Dit au Apollinaire, la lettre pour Lou, là. Il lui explique comme quoi qu'il l'aimait pendant que lui, il était à la guerre. Quand il dit « Lou m'a percé » en parlant de Cupidon.
C'est qui Cupidon?
C'est le dieu... C'est le dieu de l'amour.
Je trouve que ce texte s'approche vraiment de l'amour. Je trouve qu'il y a vraiment de l'anaphore. Et ça pourrait être un texte intéressant.
On a du mal à définir l'amour. Quand on est amoureux, c'est incompréhensible. On a du mal à dire pourquoi, on a du mal à décrire ce qu'on ressent. L'émotion, elle est tellement forte qu'elle nous dépasse et qu'on a du mal à en parler, en fait. Et donc, il y a des artistes, enfin, tous ces gens qu'on appelle des artistes, il nous faut comprendre des choses que tout seul, on n'arrive pas à comprendre. Et donc, merci Guillaume Apollinaire et merci votre professeur, parce que, voilà, toi, l'être à Lou, ça t'a vraiment touché.
J'ai aimé, ça m'a pas touché.
C'est exactement pareil. En fait, quand je dis touché, ça veut dire que ça t'a ému. Ça t'a ému?
J'ai reçu un sentiment, mais pas une émotion.
Je crois plutôt que tu as reçu une émotion, mais tu préfères le cacher. Tu veux pas forcément l'assumer. Non?
Non.
Vous savez que vous avez le droit d'avoir des émotions quand même. Hein, vous avez, surtout les garçons, les émotions. Souvent on dit, les garçons, ils ont pas le droit de pleurer, d'être tristes. Vous savez que vous avez le droit. Donc tu as le droit de dire que ce poème t'a ému, t'a touché, non?
Non, il m'a pas ému, mais...
Il m'a pas aimé. Il veut pas se...
Mais comment tu peux ressentir du sentiment pour un poème?
Non, moi
pas
j'ai...
une émotion.
J'ai aimé quand... Comment il s'appelle Apollinaire, quand il forçait en lui disant « écrit, écrit », mais j'ai reçu aucun sentiment.
Ah. C'est parce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit que t'as reçu un sentiment, mais pas une émotion.
Non, je me suis trompée, là, faut couper.
Faut que je coupe? Ah, mais je vais pas couper, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Bon, est-ce que tu penses que les garçons, ils ont le droit d'avoir des émotions?
Oui.
T'en as, toi, des émotions, des fois?
Bah oui.
Ouais?
Oui.
Lesquelles?
Bah la joie, la colère, la tristesse, bah c'est tout, je pense.
Est-ce que ça t'arrive de pleurer?
Bah oui.
Oui?
Oui.
Toi, ça t'arrive de pleurer?
Pas trop.
Pourquoi tu sais pas?
Bah parce que j'ai pas envie de pleurer et qu'il y a rien qui fait pleurer.
Est-ce que toi, ça t'arrive d'être ému?
Non, jamais.
Est-ce que t'as déjà ressenti la tristesse?
Non.
Est-ce que des fois, tu as de la colère?
Oui.
Est-ce que tu as des émotions?
Oui, comme tout être humain. On peut avoir de la joie comme de la tristesse.
Ça t'arrive de pleurer?
Oui, par exemple les matchs de l'Algérie.
Est-ce que ça existe des humains sans émotionnels?
Est-ce que ça existe des humains sans émotions?
Oui, parce que j'ai suivi une histoire où il y a une fille qui était malade. Elle ne pouvait pas ressentir des émotions, avoir mal, ni pleurer, ni être amoureuse. Du coup, bah, pour moi, oui, c'est possible.
Moi, je connais une fille. Là, ça va, elle a changé, mais elle n'avait pas d'émotions du tout.
Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on ne montre pas nos émotions qu'on ne les a pas au fond de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les montre pas, mais qu'elle ne les ressent pas au fond d'elle. Hein. Ça, personne ne sait.
Pour moi, cette histoire, c'est du mensonge. Certes, c'est une personne qui cache ses émotions. C'est obligé que quelqu'un a des émotions. On a tous des émotions. Soit ils sont visibles ou bien cachés derrière notre cœur.
Tout le monde a des émotions et tout le monde n'en a pas en même temps parce que la moitié des humains est souvent corrompue par ses émotions.
Toi, tu penses que les émotions sont pas bonnes, en fait?
Effectivement. Moi, je trouve que on se rapproche mieux des sentiments que de l'émotion.
Imaginez quand on est en colère, on peut faire des trucs que tu peux pas le faire. Du coup, bah oui, les émotions, c'est dangereux un peu.
Alors, est-ce que c'est l'émotion qui est dangereuse ou ce qu'on en fait?
L'émotion lui-même, parce que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas ce qu'on fait.
Je suis assez d'accord avec toi, mais des fois, quand on nous dit de contenir nos émotions, de les retenir, de justement de ne pas pleurer, souvent on dit ça aux garçons, ne pleurez pas. Ben c'est là qu'à un moment donné, ça provoque un problème, en fait. Est-ce qu'on peut les éviter, les émotions?
Oui. Non.
Je crois qu'on ne peut pas les éviter. Et peut-être qu'il faut les accepter pour passer à autre chose. Si on ne le fait pas...
Ben après, c'est de l'amertume parce que tu l'accumules tes émotions. Et du coup, à la fin, ta colère, elle est sur une seule personne alors que ce n'était pas forcément elle.
Est-ce que c'est important d'exprimer ses émotions et de les ressentir, de les accueillir pour pas exploser?
Et les sentiments, ça peut jouer sur notre vie?
Ouais, pour moi, je pense que c'est important de les distribuer à chacun. Car si on accumule, on n'arrive plus à se retenir.
Moi, je trouve aussi qu'il faut s'exprimer, mais aussi faut se calmer au niveau de la colère. Faut pas faire montrer trop les émotions quand t'es en colère.
Exprimer, ça c'est un terme qui est très très intéressant. Comment vous faites-vous quand vous avez une émotion forte?
Moi ça m'énerve, je les gifle tous.
Ah oui, donc toi tu passes à la violence physique.
Moi j'essaie de les canaliser.
Et comment tu fais?
Je sais pas, soit je vais quelque part, comme ça. Ouais, ça je sais.
En fait ça dépend de la personne. D'abord si de base je t'aime pas et que tu me saoules, là c'est encore plus pire. Alors que si je t'aime bien et... Après, si c'est trop, là, j'explose.
Ah, bah moi, clairement, je la canalise pas. Je peux taper, mais je peux taper.
Mais après, je pleure après.
Pardon?
Je pleure après.
Ah voilà, donc tu pleures quand même.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'elle sort quand même en pleurant.
Il
hein
y a le déni.
On s'est posé la question, qu'est-ce que l'amour? Tout de suite, Esther a répondu à la question, c'est un sentiment. On a eu un peu du mal à avancer sur ce terrain-là parce qu'il y avait des petites gênes. Et puis, on a un peu dévié sur les émotions. On les a citées, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Et on se pose la question de savoir, est-ce que c'est important les émotions? Comment est-ce qu'on les surmonte quand elles sont trop violentes pour éviter d'aller vers la violence? Et toi, tu as posé une question aussi qui était très intéressante. Est-ce que ça existe les humains qui n'ont pas d'émotions? Et on a un peu répondu.
Quand j'ai vu la scène, c'était bizarre. C'était une mauvaise ambiance. Parce que par exemple, on voit que l'automne, il sent seul, qu'il a que Vivi qui l'aide. Parce que là, il a personne, sa famille, il l'aide pas. Sa mère, elle écrit beaucoup, mais c'est ça qui l'aide à survivre apparemment. Et son père, il fait pas beaucoup de choses. Et il est très... très violent avec son fils, il peut l'insulter et le frapper.
Mais en fait, on voit qu'il est violent parce que c'est pas son vrai fils. Parce que celui qu'on appelle l'ours, c'est le beau-père de l'automne. C'est pas son vrai père, c'est son beau-père. Comme son vrai père, il l'a abandonné quand il était bébé.
Après, ils ont retrouvé refuge chez celui qu'on appelle l'ours. Mais on voit qu'au final, ça n'a pas vraiment servi à quelque chose pour l'automne. Parce que dans tous les cas, l'ours ne s'occupe pas de lui. Du coup, c'est comme s'il n'avait pas de père.
Je trouve la mère irresponsable. Quand le père l'insulte, elle fait semblant de ne pas entendre. Elle n'écoute jamais son fils. Elle est irresponsable.
Le beau-père, il doit prendre l'automne comme si c'était son vrai père. Parce que ça ne sait pas, il le laisse de côté. Et il n'y a que son petit frère. Vu que c'est son vrai fils, il le garde. Alors que l'automne, il le jette. Le père, il n'aime pas l'automne. Il ne fait que de l'insulter. Le faire des moqueries, lui dire toi tu sers à rien, c'est ça. Moi je trouve que le beau-père c'est pas un vrai beau-père, c'est pas un bon genre.
Le père il est très méchant avec l'automne et il aime pas trop et le père est débordé, il fait que de ranger les feuilles, faire des gros tas et ça commence un peu à l'énerver.
Aussi je trouve de ma part que le père est aussi très pas sympa du tout avec son fils. Il laisse jamais faire quelque chose, il s'en fout complètement. C'est pas quelqu'un qui aime sa famille quand on est une famille recomposée. Même si le beau-père ce n'est pas son vrai fils, on doit quand même s'occuper de lui.
Pour toi, les deux sont fautifs.
Aussi le petit frère.
Le petit frère aussi? Quoi? Il a rien demandé lui? Tu penses que le petit frère il est fautif?
Bah oui, car il a volé la place de l'automne.
Oui, mais lui, il y est pour rien.
C'est qu'un bébé encore.
Et oui.
Il peut pas. Il est pas assez grand pour comprendre.
Oui. Est-ce que tu penses que les enfants sont responsables? Bah voilà, là, on a une discussion philo. Ça veut dire que les enfants sont responsables?
Enfin, je voulais pas te dire ça. Je voulais dire qu'il a. Je pense que l'auteur, au fond, lui, il est jaloux de lui. Ça se voit.
Oui, mais c'est un peu normal. Des fois, on a le droit d'être jaloux.
Moi, je trouve que le père, en fait, il veut essayer de repousser l'automne parce qu'en fait, lui, il sait que c'est pas son vrai fils. Mais l'automne, lui, il peut pas savoir puisque l'automne, il est né, mais il était encore petit. Du coup, il ne doit pas vraiment savoir que c'est pas son vrai père et que son vrai père, il n'est pas avec lui.
Le beau-père, il s'appelle l'ours, car il protège que ses enfants, mais il protège jamais quelqu'un qui ne connaît pas.
En fait, le beau-père, il fait comme s'il ne le connaissait pas, en fait.
Quel mot on peut dire quand quelqu'un fait comme si il ne nous connaît pas?
Comme s'il n'existait pas.
Comme si on était invisible.
Ignoré. Inconscience.
L'invisibilité.
Inconscient.
Inconscient,
on l'a dit, c'est indifférence.
Ah oui.
Vous connaissez ce mot, indifférence? Quand quelqu'un va faire comme si on n'existait pas. C'est horrible, l'indifférence. C'est presque pire que la haine.
Quand t'aimes pas quelqu'un, tu peux tu peux faire comme s'il n'était pas là pour te dire que t'as rien à voir avec lui. Du coup, je me dis que en vrai, l'indifférence c'est comme la haine, sauf que là tu te coupes de tout lien avec lui.
La différence, c'est comme si tu étais supérieur à la personne, du coup tu n'avais pas besoin de lui parler. Par exemple, il y a une personne que t'aimes pas, et ben toi tu vas pas rester avec elle, genre tu vas l'ignorer, genre tu vas faire de l'indifférence.
C'est aussi du favoritisme et aussi le favoritisme, c'est très moi je trouve ça que ça fait mal au cœur beaucoup.
Pourquoi ça fait mal au cœur?
Parce que le favoritisme, on s'occupe pas du tout de toi.
L'indifférence, c'est pire que le favoritisme, parce que le favoritisme, ça veut dire que tu préfères quelqu'un, mais ça ne veut pas dire forcément que tu n'aimes pas l'autre et que tu l'ignores. Parce que le favoritisme, ça ne veut pas dire forcément que tu n'aimes pas la personne, ça veut juste dire que tu préfères une autre personne.
Moi, pour moi, le favoritisme, c'est pire parce que déjà...
C'est pire que quoi?
Que l'indifférence.
Pourquoi?
C'est comme si tu aimes cette personne, mais après, l'autre personne, tu l'oublies. Moi, pour moi, c'est un peu pareil.
Toi, tu penses que si... quelqu'un va te préférer, il va t'oublier?
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être pas. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un, ça peut arriver ça des fois dans la vie, quelqu'un va d'un coup changer d'avis et nous préférer quelqu'un d'autre, est-ce que ça veut dire qu'il nous oublie?
Mon copain, il a déménagé de cette école. Je sais pas, peut-être il m'a oublié, peut-être pas.
Moi, avant, j'avais une copine
quand j'étais petite, mais en fait, Mettez ne m'envoie plus de messages. Du coup, je crois qu'elle m'a oublié et elle s'est trouvée des autres amis.
Moi, j'ai le favoritisme. C'est pire que l'indifférence, car le favoritisme, c'est comme si tu as 100 euros. Tu donnes 99 euros à quelqu'un, tu lui donnes 1 euro à quelqu'un.
Bah, pour revenir sur ce que mon camarade a dit, quand tu donnais l'exemple de quelqu'un qui donne 99 euros à quelqu'un et à l'autre personne 1 euro, bah, il a quand même donné quelque chose à l'autre personne, même s'il lui a pas donné, il l'a pas donné à part égale. Du coup, je pense que l'indifférence est pire que le favoritisme, parce que l'indifférence, tu t'occupes pas de la personne, tu fais rien avec elle, et du coup, tu lui donnes rien.
Dans son exemple, du coup, il aurait donné 0.
Oui, c'est ça.
Le favoritisme, c'est pire que l'indifférence. Le favoritisme, je peux donner 100 euros à quelqu'un, mais l'autre, tu vas le frapper. Parce que ça peut aussi être de la violence sur l'autre et tu lui donnes rien. Et après, ça va plus se renfermer. Parce que par rapport à l'indifférence, tu peux juste l'oublier, la personne qui t'oublie. Et après, tu peux... Alors que le favoritisme, il peut te frapper. Et donc, tu vas voir que même il t'ignore et en plus, il te frappe parfois.
L'indifférence, c'est pire que le favoritisme parce que quand on oublie quelqu'un, ça peut lui faire de la peine et il peut avoir des pensées très violentes et ça peut le blesser fortement. Et que ça peut être des pensées aussi dangereuses pour lui-même et son amour propre.
En fait, vous êtes en train de dire que l'indifférence, c'est un peu comme l'oubli. Et l'oubli, c'est un peu comme la gomme dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu, il y a quelqu'un qui arrive et puis il prend une gomme et puis il efface. Pourquoi encore c'est violent ?
Par exemple, t'as un fils, et ben lui, tu l'oublies complètement, tu le parles pas, tu le fais pas, genre, tu lui dis pas, je sais pas moi, la nuit, tu lui dis pas bonne nuit, fais dodo, alors que l'autre, tu lui dis faites vos rêves, mon petit chou, ben, comme ça, c'est pas bon. Voilà, pour moi, l'oubli, c'est plus faible. C'est faible comparé à l'indifférence. Donc l'indifférence est plus fort que l'oubli.
Dans le mot indifférence, il y a le mot différent. C'est pour ça que indifférence, c'est plus violent.
Il y a quelque chose de violent dans la différence ?
Bah, ça veut dire que, par exemple, Amir, eh ben, il n'est pas comme moi, du coup il est différent. Du coup je ne vais pas lui parler, je vais l'oublier.
Tout à l'heure vous avez dit que la haine c'était pire que l'indifférence. Mais l'indifférence, on peut...
Non, j'ai pas dit ça. Enfin, pardon. Dis ce que tu penses.
Bah, en fait la haine, on te traite mal, que si c'est l'indifférence, c'est comme si tu n'étais pas là, du coup il te fait rien.
Moi, je pense que l'indifférence, ça fait beaucoup mal, beaucoup mal. Même si on te frappe et tout, et ben l'indifférence, c'est comme si on te frappait. C'est juste qu'on te voit pas. Pour l'autre, ça peut faire mal.
Ce serait comme une baffe invisible, en fait.
Oui.
Mais c'est pas marrant du tout.
Et moi, je voulais dire que l'indifférence, c'est pire parce que des fois, on peut pas vraiment se rendre compte que t'es blessé parce que comme on te fait rien, du coup, les autres ne peuvent pas forcément voir que t'as des problèmes. Et alors que la haine, si on te frappe, quelqu'un peut voir qu'on t'a frappé et après, on peut plus rapidement agir. Du coup, l'indifférence, c'est plus violent parce qu'on va pas forcément te croire sur ce que tu peux endurer chez toi, par exemple.
Tout est invisible, c'est-à-dire à la fois on te tape mais c'est invisible, et toi tes blessures surtout elles sont invisibles.
C'est ça.
C'est ce que tu dis. Je reviens sur ce que ma camarade a dit, parce que l'indifférence, quand les blessures elles sont invisibles, on peut aussi ne pas en parler, et donc ça peut aggraver le cas de la blessure qu'on a.
Pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit, des fois on peut ne pas en parler parce qu'on peut se dire que ça sert à rien vu que personne ne voit ce qui se passe, parce que on a mal à l'intérieur de nous et on a pas mal physiquement, on a mal dans notre tête. C'est des blessures qui sont... c'est pas des blessures physiques, c'est des blessures morales.
«
pour relancer la discussion sur l'amour avec les collégiens du collège Évariste Galois, je reste au collège pour commencer le montage et à la fin de la matinée, à 11h, je retourne dans leur classe. Là, je prends le texte d'Anne Dufour-Montel, En cas d'amour, et je leur lis Mina Tower. Mina Tower, c'est une femme qui vient voir Anne Dufour-Montel dans son cabinet et qui lui dit « Je voudrais que vous me débarrassiez de l'amour ». Voici la réponse d'Anne Dufour-Montel. « Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de l'amour. Nous venons de là, du lien. Nous naissons encordés comme les alpinistes, attachés à un ventre, une âme, des tripes, une voix. Nous venons du deux. Nous mourrons seuls, c'est une certitude. Et pour naître, il a fallu passer par un arrachement dont nous n'avons même pas idée. Si c'est de cet amour-là dont vous parlez, il n'y a rien à faire. Il est dans vos poumons, votre cerveau, dans le moindre de vos gestes. Il vous préexiste et sans le secours même d'aucun dieu, il s'est déposé en vous comme la marque du premier lien. Et même si votre mère vous avait rejeté, abandonné, haï, ce que j'appelle ici amour est la possibilité d'un souffle qui a fait de vous un être vivant plutôt que mourant, vivant et espérant. »
C'est une dame, elle va chez un psychiatre pour lui dire de se débarrasser de l'amour, mais elle peut pas. Et son psychiatre lui fait comprendre qu'on est fait de ça. Elle peut pas se débarrasser de l'amour.
Et pourquoi ?
Parce qu'on est fait de ça.
Tu es d'accord avec ça ?
Ouais.
On peut penser au texte qu'on a étudié ce matin de Marceline Desbordes-Valmore, qui dit « N'écris pas » parce qu'elle ne veut pas, elle n'est pas prête à vivre l'amour. Et du coup, là, la femme qui va voir la psychiatre, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle voudrait ne plus avoir de lien amoureux. Elle ne veut plus aucun attachement envers personne. Et sa psy lui répond que c'est impossible. En fait, elle sort de son rôle de psy, parce que normalement, un psy, il ne dit pas à un patient autant de choses. En général, les psys, ils écoutent plutôt. Et là, elle lui fait une longue tirade où elle lui dit ce que c'est que l'amour et elle lui dit qu'on est fait d'amour et qu'en fait, non, on ne peut pas s'en débarrasser. On n'en guérit pas, mais du coup, ça permet de vivre aussi. C'est ça qu'elle lui dit.
On peut penser qu'on n'en a plus. On peut, comme cette femme, vouloir s'en débarrasser parce que ça peut faire très très mal, l'amour. Et en fait, ce qu'elle lui répond, c'est que même si on pense qu'on n'en a plus, on se trompe, on en a, parce qu'on est fait d'amour. On est fait d'amour puisque déjà, si on est sur Terre, c'est qu'il y a une mère qui nous a donné naissance. Une mère et un père, évidemment. Et même si notre mère, ça peut arriver, il y a des enfants qui sont rejetés, qui ne sont pas aimés. Au fond, même cette mère qui pense qu'elle ne t'aime pas, en fait, au fond d'elle, elle t'aime. Elle aime son enfant qu'elle rejette.
Si la femme ne trouve pas l'amour, elle n'aura pas d'amour en soi. Mais si elle trouve l'amour, par exemple, elle en aura.
Des fois, on pense qu'on n'en a pas. Et quand on pense qu'on n'en a pas, c'est parce que ce qui manque, c'est de s'aimer soi-même, en fait. Et les psychanalystes, c'est pour ça que c'est très important, ces médecins, c'est des médecins, ils nous aident déjà, avant tout, à nous aimer nous-mêmes. L'amour que des fois on n'a pas quand on est enfant, et ben, c'est important de le chercher en soi. Et une fois que tu apprends à t'aimer, bah, tu vas voir que les autres, ils t'aiment.
Alors juste,
quelle est la question là, du coup, qu'on se pose?
Est-ce que le vrai amour, ça existe? Et vous cherchez l'exemple chez vos parents?
Moi, je crois que le véritable amour, ça existe, mais parfois, au bout d'un moment, voilà, si on s'aime plus, on s'aime plus. Hein.
Pour moi, l'amour de nos jours, c'est l'amour par intérêt, car des fois, l'amour, ça rend aveugle.
Moi, je trouve que ça n'existe pas, le vrai amour. Mais l'amour simple, ça existe.
C'est quoi l'amour simple ?
Bah, l'amour simple, c'est d'aimer quelqu'un et s'attirer vite à lui. Non, c'est quand on s'attire vite sur la personne. Le vrai le simple amour. Mais sinon, le vrai amour, ça n'existe pas.
Le vrai amour, il existe, mais il faut aller le chercher. Parce que, en fait, quand on parle de l'amour tout court, par exemple, une des personnes du couple, bah, elle est vraiment amoureuse de l'autre. Enfin, ils vont pas voir quelque chose venir. Par exemple, ça veut dire si il y a une personne qui prépare quelque chose derrière son dos, bah ils vont pas voir ça venir.
Au début, par exemple, on peut aimer beaucoup la personne, mais de jour en jour, quand on la croise, on peut ne plus ressentir le même amour du début.
L'amour simple, c'est un amour où on parle pas de problème et s'il y a un problème, on n'en parle pas.
Genre, ça veut dire, genre, t'aimes bien quelqu'un et tu vas pas te marier avec lui. Genre, tu l'aimes, mais t'as pas des projets avec la personne.
Bah, l'amour simple, c'est une relation sans prise de tête, sans des disputes, des insultes. Si t'aimes quelqu'un que lui en retour, il te lance des fléaux, à la fin, tu l'aimes plus. Du coup, bah, pour moi, l'amour, ça existe pas. Enfin, ça existe, mais pas l'amour réel. Ça existe pas, l'amour réel. Tu l'aimes juste par intérêt, parce que voilà, tu veux que pour voir tes potes ou être en couple. Sinon, en vrai, tu l'aimes pas.
Pour toi, ça, on peut plus être amoureux de nous, genre, à moi.
Désolée, les filles, mais on n'est pas aussi fidèles que ça. On est d'accord. Moi, je reste sur ma décision. L'amour de nos jours, ça existe pas. Avant, nos parents, ils s'aimaient parce que pour eux, c'est quand t'as un mari, c'est ton mari, tu ne vas pas le tromper. Mais maintenant, vous voyez les personnes âgées qui durent ensemble. Ils se connaissent depuis. Et en fait, ils ont appris à s'aimer, ils ont appris à se connaître. Mais nous, maintenant, quand on a un mec, c'est que pour prouver, ouais, je suis en couple, tout ça. C'est que nous, en fait, nous, on est que sur le style. C'est pas mon style, c'est mon genre.
On n'est pas toutes pareilles, hein, parce qu'elle a dit les filles, mais pas toutes. Voilà, on n'a pas tous la même situation.
Je suis pas d'accord avec Esther, elle a dit nous, alors qu'il n'y a que elle. Mais aussi, on a tous un opinion différent, que peut-être il y a des gens là-bas, ils se font briser le cœur. C'est pour ça qu'ils ont une autre opinion. Par exemple, moi, mon opinion, la vraie amour existe encore. Juste, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Et c'est tout.
Tu parles de façon générale ou personnellement, en mode
général.
Ah, donc tu parles pour nous.
C'est comme si nous, on dit, bah, les garçons, on trompe les filles. C'est quoi ça?
Si.
Les garçons, normalement, quand ils cherchent l'amour, ils le trouvent quand ils veulent. Alors que les filles, eux, ils doivent faire tout un truc pour trouver l'amour. Par exemple, ils doivent faire toute une organisation, ils doivent trouver un plan, par exemple, pour attirer l'autre. Moi, je trouve ça ridicule pour moi. Donc moi, j'aimerais aboutir.
Je suis totalement d'accord avec lui parce que, par exemple, il y a des catégories de filles qu'on appelle des michetots. Par exemple, il y a des hommes, s'ils ont beaucoup d'argent, la femme va être attirée par lui juste pour son argent.
Ça, c'est une michto?
Oui.
Moi, je trouve, en ce moment, c'est plus difficile de trouver l'amour côté chez les femmes. Je crois qu'on est en 2024. Du coup, en ce moment, c'est très difficile. Comparé à avant, ils trouvaient juste un mari fidèle, peu importe leur style, et ils le prenaient. Mais maintenant, eux, c'est s'il est beau, s'il a de l'argent, s'il dépend d'elle. Mais ça veut dire, les filles, c'est quand ils veulent. Alors que nous, les garçons, on en trouve une. Si juste elle est fidèle, bah c'est bon.
Mais enfin, Esther a alerté sur le fait que les filles, en fait, elles sont pas fidèles.
Oui, elles sont pas fidèles.
Vous avez entendu les élèves de 4e d'Agathe Zantelin du collège Évariste Gallois à Nanterre et les élèves de CM1 de Nina Marion Gabert de l'école Robespierre à Nanterre, participant au projet Écoute-moi lire, organisé par le théâtre Nanterre Amandier. Les élèves ont discuté autour du texte d'Anne Dufour-Montel, En cas d'amour, publié chez Rivage Poche, et autour du texte L'automne de Stéphane Joberti, publié aux éditions théâtrales Jeunesse, mis en scène par Émilie Leroux, compagnie Les Veilleurs. Les musiques ont été composées par Vincent Burlot. L'animation des ateliers, les enregistrements et les montages sont faits par Emmanuel Solaire pour Minute Papillon.